Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B. Et aujourd'hui dans Gymnastique sonore, on redonne la parole à Vivace FM pour le dernier épisode. Celui-ci avait été enregistré le 25 mai 2023 et nous raconte le projet d'aménagement de l'autoroute entre Castres et Toulouse sous la forme d'une performance musicale et documentaire.
Les oiseaux écrivent des récits. Les choses du monde écrivent des récits. Nous ne sommes pas premiers dans la liste des écrivains de récits. Ce que nous faisons, c'est les reprendre et nous essayons de les articuler.
Il est vrai de vivre dans un monde de béton et de plastique. Le plastique dans les océans, sur les plages, dans les villes, la sécheresse et le réchauffement climatique, cela ne vous suffit pas. Vous avez besoin d'une autoroute de plus.
Rien n'a jamais empêché l'histoire de bifurquer. Et rien ne s'oppose à ce que l'espèce humaine change de narration collective.
Vivace, orchestration de voix vivante et tenace face à la destruction des territoires. Une performance musicale et documentaire enregistrée dans les conditions du direct le 25 mai 2023. Vivace est de retour dans le Tarn sur les chapeaux de roue. Voilà 30 ans qu'un projet d'un autre siècle essaye de sortir des tiroirs des aménageurs d'Occitanie, l'A69, une nouvelle autoroute entre Castres et Toulouse. Longue de 53 km avec un péage prévu autour de 17 euros l'aller-retour, elle avalerait 400 hectares de terres agricoles. Mais tout va bien, puisqu'on nous promet une autoroute électrifiée, durable, verte, voire même vertueuse. Une autoroute de plus pour se déplacer plus vite, plus loin. Mais pourquoi ? Et pour qui ? Vivace, dans le Tarn, autoroute Toulouse-Castres, électrique, logistique et dermocosmétique.
D'abord, bonjour à tous. Merci d'être là pour défendre mon village, notre village. Moi, je suis né dans le village. J'ai fait 44 ans de mairie. J'ai arrêté il y a un an parce que j'étais un peu fatigué. Les maires d'ici, j'en salue quelques-uns, je trouve qu'on n'est pas assez nombreux. On avait fait une contre-étude pour expliquer qu'on pouvait faire autre chose. Qu'en doublant la route, il n'y avait que 80 hectares de terre sur le goudron au lieu de 400. Que ça coûtait 150 fois moins cher. Ça a été jeté, personne n'a voulu étudier ça. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Il y a des élus, malheureusement, qui n'ont pas tout compris sur ce territoire. Je suis de la même obédience que Carole Delga. Je lui ai dit ce que je pensais. Et malheureusement, elle n'écoute pas parce que... Vous savez ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit, si on veut être élu dans le Tarn, il faut être pour l'autoroute. Voilà. Voilà. Il faut continuer à lutter, même si nos chances, je ne suis pas optimiste moi, parce que je crois qu'on nous a menti sur le nombre de véhicules, on nous a dit qu'on allait gagner 35 minutes sur 70 km, alors il faut acheter des Porsche tous ou des Ferrari, parce que pour gagner ce temps-là, on n'y arrivera pas. Voilà, donc voilà, on en est là. Si ce projet, parce qu'il y a plus de 30 ans qu'on en parle, il était peut-être valable il y a 30 ans, je crois qu'aujourd'hui, il est complètement obsolète et qu'il faut penser à autre chose.
Ce projet, il a commencé à naître dans les débuts des années 2000, suite à une fort lobbying de l'entreprise Pierre Fabre, qui est basée sur Castres, et qui a fait un fort lobbying auprès des gouvernements de l'époque pour passer une deux fois deux voies qui était déjà existante, enfin, qui était déjà dans les cartons sur les années 90, pour la passer en concession privée entre Castres et Toulouse. Voilà.
Pierre Fabre, c'est un laboratoire français créé en 1962 dans le département du Tarn à Castres. En fait, Pierre Fabre est devenu un pionnier d'un secteur bien particulier qui est la dermocosmétique, c'est-à-dire pour la peau et les cheveux. À côté de ses produits dans la dermocosmétique, le groupe a aussi des produits dans la santé familiale, dans les médicaments sur ordonnance ou encore l'hygiène bucco-dentaire. En une vingtaine d'années, il crée une multinationale qui emploie des milliers de salariés. Extrêmement fidèle à sa région, la plupart de ses usines sont situées dans le département du Tarn. Homme d'affaires remarquable, il réussit à ressusciter l'eau thermale d'Avesnes dans laquelle plus personne ne croyait.
Quand on parle de chaîne du médicament, du marché du médicament, c'est évidemment des entreprises de production, de fabrication de médicaments, mais c'est aussi énormément d'acteurs intermédiaires, des entrepôts, plein d'entrepôts, des zones de stockage, de traitement, des zones franches, des opérateurs de transport, et donc tout un appareillage, toute une infrastructure logistique qui a à voir avec la distribution des médicaments. Et qu'on ne peut pas comprendre le marché du médicament si on ne s'intéresse pas au rôle de ces acteurs. Quand on regarde ce marché du médicament, en fait, la production, l'opération de production elle-même, elle ne remplit pas un rôle crucial, c'est-à-dire elle remplit un rôle crucial parce que sans production de médicaments, il n'y aurait rien du tout. Mais par contre, en termes de production de la valeur, de fabrication de la valeur, les fabricants, ce n'est pas forcément les acteurs les plus importants de la chaîne. Et que là où il y a de l'argent à se faire, c'est en distribuant les médicaments et en contrôlant les canaux de circulation de ces médicaments. D'où l'importance, évidemment, d'une réflexion sur qu'est-ce que ça veut dire transporter des médicaments, qu'est-ce que ça veut dire distribuer, quelles sont les infrastructures qui permettent de donner accès à des médicaments, de les valoriser, etc., etc. Et je dirais qu'après, il y a différentes manières de faire circuler les choses et différentes manières de contrôler les circulations, et que ces manières, souvent, on les voit comme des pratiques, disons, hyper techniques qui n'ont pas forcément d'implication politique, alors que pour moi, c'est tout le contraire. Parce que justement, ces manières qui sont à la fois des manières de régler techniquement les circulations des choses, c'est aussi des manières économiquement de les valoriser, et c'est aussi des manières politiquement, mais en fait, d'y donner accès ou de ne pas y donner accès.
Contre cette autoroute, et son monde, un monde dans lequel les territoires, les sols ne sont que des terrains de décollage, de désenclavement, d'attractivité, terrains de compétition et de prestige pour des entreprises industrielles et agricoles, ici la multinationale Pierre Fabre. À ce propos, je voudrais vous transmettre quelque chose que j'ai relevé des publicités du laboratoire Fabre et de sa marque pilote qui est la marque Avesnes. Ça se veut très poétique. L'eau de pluie se déverse sur le bassin versant et effectue un long parcours dans ses profondeurs souterraines. Pendant sa progression, elle se réchauffe et se charge des éléments biologiques et minéraux pour devenir l'eau thermale d'Avesnes, aux propriétés uniques. Ça veut dire que si nous sommes face à un capitalisme naturel, Pierre Fabre fait partie du cycle de l'eau. C'est même la terminaison recycle de l'eau dans des sprays qui sont vendus à 100 millions d'exemplaires. Parce que bien entendu, ils ont privatisé la source.
Le changement climatique, c'est aujourd'hui, c'est ici. Et ça n'est plus un scénario du futur et ça n'est plus un scénario de pays lointain. Ça nous touche directement. Des climato-sceptiques, on n'en a quasiment plus. Par contre, des climato-négationnistes, on parle maintenant de climato-négationnistes, ce sont ceux qui négocient avec le climat, avec les causes du réchauffement climatique. Qui ne croient pas que c'est lié aux activités humaines. Or, le GIEC, les auteurs du GIEC, sont catégoriques, 100% du réchauffement climatique est lié aux activités humaines. C'est un consensus scientifique, et on en est certain. Même si vous aurez toujours des gens qui vous diront « Oh, mais les causes naturelles, les volcans, la rotation de la Terre autour du Soleil, etc. etc. » Oui, on connaît tout ça, on connaît même très très bien. Les experts du GIEC le savent très bien, ils modélisent ça et ils savent que les causes naturelles ne peuvent pas expliquer le réchauffement climatique actuel.
Lundi 23 juin 1986. Jean et Édouard s'étaient assis sur le banc de pierre, le long du mur. Face à eux, le soleil n'en finissait pas de se diluer dans l'orange. Un gigantesque jaune d'œuf gagnait tout le ciel. À droite, en revanche, les collines étaient prises par l'ombre. La vallée semblait plus profonde, emplissant de paix tout l'espace. Jamais une photo ne pourrait rendre compte de tout ça. Ah bon ? Même pas une photo avec votre jambon ? J'ai l'impression que vous l'aimez pas beaucoup, mon jambon. Vous savez, Édouard, je vous respecte. Grâce à vous, ma fille a un vrai travail, elle apprend beaucoup de choses, elle gagne sa vie. Mais vos histoires de jambon en plastique, ça me paraît louche. Pourquoi donc ? Mais déjà parce qu'il est rose, votre jambon. À moins d'élever le cochon avec du cassis, un jambon blanc, c'est pas rose. Et puis, pour pouvoir rester des semaines comme ça dans le plastique, il doit être gavé de nitrates, de colorants et d'arômes. En fait, c'est tout sauf simple, un jambon pareil. C'est tout sauf simple. Le père était bien placé pour savoir que les choses simples en matière d'élevage, ça devenait de plus en plus compliqué. Déjà parce que les petites boucheries fermaient les unes après les autres, depuis que les mammouths et les euromarchés poussaient un peu partout, et ensuite parce que les gens n'achetaient plus que de la viande pré-emballée en regardant le prix, sans jamais se poser la question de son origine. Je vais vous dire, Édouard, les choses simples, comme vous dites, c'est bien joli, mais ça n'existe plus. Les bêtes, plus personne ne sait d'où elles viennent. Entre les éleveurs de la Nièvre qui envoient des chars au lest de l'autre côté de la Méditerranée avant de les faire revenir une fois engraissés, les Anglais qui gonflent leurs vaches avec du soja et des farines d'Amérique du Sud, et ces tonnes de steaks congelés qui se baladent par avion, aujourd'hui un beefsteak peut avoir fait 20 000 km avant de se retrouver dans votre assiette. Alors ce monde-là, croyez-moi, il est tout sauf simple.
Initialement, la logistique s'est pensée comme une activité militaire, qui est une activité de déplacement, donc des armées, des armes, des ravitaillements. Et l'idée, c'est vraiment d'organiser ce type de ravitaillement. Le logisticien, le maréchal des logis, est une personne clé dans la guerre, dans l'activité guerrière. Mais au moment de la Deuxième Guerre mondiale, les personnes qui étaient impliquées dans la réflexion autour de cette activité logistique ont conduit à l'émergence d'une nouvelle science qui est très liée à la cybernétique, qui est la recherche opérationnelle. Et donc le cœur de la recherche opérationnelle pendant la guerre, c'est vraiment de se dire, voilà, on a des navires, on a des pièces détachées de sous-marins à gérer, il faut les transporter d'un bout à l'autre de la planète. Comment on fait pour maximiser, pour optimiser, plus que maximiser, la mise en circulation de ces objets.
Nos déplacements ne se limitent pas à la ville. Pour des raisons professionnelles ou privées, nous avons besoin de nous déplacer plus loin. La voiture est le mode de transport préféré des Français. Elle permet de se déplacer facilement quand on veut aller d'un endroit à un autre. Mais il ne faut pas minimiser ses inconvénients. Voyager en voiture coûte cher et est plus dangereux. Les embouteillages sont nombreux et la fatigue se fait vite sentir. Il faut ajouter la pollution atmosphérique provoquée par toutes ces voitures. Pour faciliter les déplacements de plus en plus importants, les premières autoroutes sont apparues en 1960. C'est devenu un vaste réseau routier, principalement disposé en étoile autour de Paris. C'est ce qu'on appelle un réseau routier centralisé. Progressivement, d'autres autoroutes sont apparues pour se déplacer de région en région sans obliger les automobilistes à passer par Paris.
Beaucoup de climato-négationnistes et parmi eux des techno-solutionnistes. Le techno-solutionnisme, c'est ces solutions technologiques qu'on nous présente un peu comme des promesses de miracles technologiques qui viendraient nous sortir du bourbier climatique et écologique dans lequel on s'enfonce depuis 50 ans. Et ce techno-solutionnisme, il est accompagné de messages de greenwashing. Des messages de greenwashing, verdissement de façade, qui sont là pour masquer les dégâts. Mais pas seulement, ils sont là surtout pour protéger l'idole du progrès. Ben voyons, on n'arrête pas le progrès. Ils sont là pour continuer le business as usual. Comment pourrait-on faire autrement? Mais surtout, pour permettre à certains de conserver leurs privilèges. Mais pas que. Ces messages de greenwashing sont surtout là pour nous enfermer dans une trajectoire insoutenable, nous empêcher d'imaginer d'autres futurs possibles, et notamment des futurs de sobriété, des futurs de solidarité, de partage, où les choses seraient posées autrement. Autrement dit, on nous verrouille notre avenir. Thank you.
Alors sous le besoin prétendu de développement économique, déjà à l'époque, disant qu'ils avaient que Castres était enclavé, qu'il méritait entre guillemets cette autoroute au même titre que Albi, la préfecture du Tarn, sous le prétexte pareil hein, d'un désenclavement dont on ne sait pas d'où il vient hein, ce désenclavement, parce que si vraiment il y avait enclavement de cette région-là, Pierre Fabre n'aurait jamais pu se développer comme elle l'est actuellement. Hein. À ce titre, on peut rappeler les chiffres du chômage. Il est équivalent entre Castres et Albi. Hein. Donc, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu d'autoroute de Toulouse à Castres, Castres n'a pas de problème d'emploi. Voilà. Donc, c'est une autoroute gratuite, Albi aussi, qui a été faite depuis un petit moment maintenant.
Côté de ses activités dans la cosmétique, dans la pharmacie, en 1988, Pierre Fabre devient propriétaire du club de rugby Castres Olympique. En 1998, Pierre Fabre se diversifie encore plus, et c'est cette fois-ci dans les médias, en créant une holding qui s'appelle Sud Communication. Cette holding a des parts par exemple dans Midi Libre, La Dépêche du Midi, Valeurs Actuelles et bien d'autres. Pierre Fabre a toujours été très présent dans son entreprise, il a suivi toutes les activités jusqu'à son décès. Pierre Fabre s'éteint à 87 ans, le 20 juillet 2013, des suites d'une longue maladie. Depuis juillet 2018, c'est Éric Ducournau qui est à la tête du groupe Pierre Fabre. C'est un des plus gros groupes français, c'est plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020.
Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de la guerre, les personnes qui s'étaient lancées dans la recherche opérationnelle militaire, bah, on se retrouvait d'une part relativement démobilisé, puis d'autre part remobilisé dans la guerre froide, avec un projet qui du coup était plus complètement militaire, mais qui était quand même lié à une ambition guerrière, qui était celle de gagner la guerre froide. Mais gagner la guerre froide, c'était pas gagner seulement sur le plan militaire, c'était gagner sur le plan économique et marchand. En fait, c'était faire gagner un projet, qui était le projet capitaliste de marchandisation, non pas seulement en étant les plus riches, mais en étant ceux qui organisaient le mieux la dimension marchande. Et donc du coup, ce moment-là a été très important dans la mesure où, en fait, in fine, on s'est retrouvé à tout concevoir comme système de gestion de flux intrants-extrants dont il s'agissait d'optimiser le fonctionnement.
Mensonge que ce mot de désenclavement. Heureusement, Castres est loin d'être enclavé. Castres a des routes vers Albi, vers Toulouse, vers Lacolle, vers Mazamet. Castres a un aéroport avec des bus pour le desservir. Castres a un grand hôpital avec des navettes pour y aller et revenir. Tous les habitants de Castres ont des lignes de bus pour aller au travail, à l'école, dans les grandes surfaces et les zones industrielles. Castres a le train vers Lavaur et Toulouse, le train vers Mazamet. Castres a des bus vers Toulouse, vers Lacolle et vers Albi. Castres, comme toutes les villes, peut dès maintenant commencer à diminuer la circulation dans ses rues et sur ses routes. Les villes ne veulent plus des voitures, même électriques. Dire que Castres est enclavé est donc un mensonge éhonté. En fait, la ville de Castres est beaucoup mieux servie que le territoire qui la relie à Toulouse. Ce territoire, notre territoire, n'a pas le train, pas d'aéroport, et une seule ligne de bus qui est justement celle de Castres à Toulouse. Et ce matin, le bus était plein, et quand Edith a voulu le prendre, elle est restée au bord de la route.
Alors, les émissions de gaz à effet de serre. Il faut diminuer absolument, drastiquement et immédiatement. Si on veut éviter le réchauffement de plus de degrés par rapport à l'industriel, je rappelle qu'au-delà de ce plus de degrés de réchauffement, on va vers une planète inconnue qu'on ne peut tout simplement pas, enfin, aucun scientifique n'est capable de dire ce qui va nous arriver. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui risquent de craquer. Et en premier lieu, les systèmes alimentaires. Donc, deux solutions pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Soit on continue à émettre et on capte ces gaz à effet de serre. Soit on les diminue à la source. Alors, parmi les solutions pour capter le carbone, on a la compensation. Ouais. Compensation carbone égale confiscation de terre. En général, là où c'est facile d'exproprier des gens. Donc c'est très connu maintenant, il y a des entreprises, hein, qui ne se cachent pas, des compagnies de compensation, qui rachètent le carbone de plein d'entreprises qui polluent et qui vont aller planter des arbres, puisque c'est comme ça qu'on compense le carbone. On fait pousser des arbres. C'est la meilleure façon de capter du carbone. On fait pousser des forêts. Et ce qu'ils font en général, c'est qu'ils exproprient dans des pays d'Afrique centrale, on a des forêts gigantesques, mono-essence, souvent des eucalyptus, des pins. Ah, il n'y a pas de souci, on capte votre carbone. Il est capté. Mais entre-temps, on a viré des gens, on a d'énormes problèmes sur les biodiversités, sur d'autres problèmes en cascade qui arrivent. Juste un petit ordre de grandeur pour compenser les émissions de carbone de la planète. En un an, il faut couvrir un continent de forêt. deuxième piste pour diminuer notre carbone, nos émissions de gaz à effet de serre, ben ça va être de diminuer à la source. Et là, c'est essentiellement un problème d'énergie. 80% de notre énergie dans le monde est carbonée. C'est de l'énergie fossile, du pétrole, du gaz, du charbon. Donc, on a une solution miraculeuse, c'est qu'on sait faire de l'électricité décarbonée. Donc, électrifions. Électrifions tout. Les trottinettes, les vélos, les voitures, les camions, les containers, les usines. Allez, allons-y. On va tout électrifier. Pour faire de l'électricité, il ne faut pas seulement du soleil, du vent, éventuellement des atomes d'uranium, si on aime les centrales nucléaires, de la biomasse, des barrages hydroélectriques. Il faut beaucoup, beaucoup de métaux. De l'acier, du béton et encore des métaux. Alors, prenons l'exemple de la voiture. On a un métal, nous les géologues, qui nous préoccupe. Ça fait 8000 ans qu'on le connaît, qu'on l'utilise. C'est le cuivre. Et en fait, on est en train de passer le pic, le fameux pic de cuivre, puisqu'on a déjà consommé tout le cuivre que la Terre nous a fourni de manière facile. Un véhicule thermique, c'est 20 kg de cuivre. Un véhicule électrique, 80 kg. 4 fois plus. Et il en faut autant dans la borne de recharge qui va servir à recharger ce véhicule.
Dès le début, il y a une lutte. Hein. Donc la lutte a démarré quasiment instantanément dès cette proposition d'autoroute privée, donc dès 2005-2006. Donc il faut s'imaginer que l'objectif de ces collectifs a été de faire traîner justement le projet pour gagner du temps au maximum, et on en est là, donc ils ont quand même été assez efficaces. Et donc il y a eu cette enquête publique en 2017 qui a amené à la déclaration d'utilité publique en juillet 2018, qui a été assignée sous le gouvernement Macron. Hein, Nicolas Hulot, malheureusement, a signé cette déclaration d'utilité publique. Et depuis, si vous voulez, c'est vraiment le prétexte ultime pour tuer tout débat d'intérêt de cette autoroute. À chaque fois qu'on leur dit, mais écoutez, regardez l'aberration de ce projet-là, ils nous renvoient à cette déclaration d'utilité publique. C'est un peu leur chapeau qui les empêche de débattre, finalement. Nous, on ne discute plus, c'est fini. L'autoroute est décidée, circuler, il n'y a rien à voir, quoi. Et du coup, depuis, donc je passe un peu les étapes, mais donc du coup, il y a eu un appel d'offres de concessions privées envers les entreprises de construction d'autoroutes type Eiffage Vinci. Et c'est l'entreprise NGE qui a eu le contrat de concession. Et le contrat de concession a été signé il y a un an pile poil en avril 2022, avec une concession à 55 ans. Et donc, on est à la phase où... donc l'autoroute est décidée, il y a un constructeur qui peut commencer les travaux. Ils peuvent d'autant plus commencer les travaux qu'ils ont obtenu l'autorisation environnementale en février tout récemment. Et donc il y a un arrêté préfectoral qui leur permet de commencer les travaux maintenant, dès aujourd'hui.
Qui a été pris par les opérateurs de distribution, donc sous la forme des hypermarchés dans les années 80-90, qui a beaucoup contribué à créer un nouveau rapport de force en fait entre distributeurs, entre pôles de distribution et pôles de production. Cette transformation, elle s'est accompagnée dans les mêmes années de la sous-traitance à gogo, de la multiplication, disons, des pôles, de l'externalisation des fonctions des entreprises de plus en plus loin et souvent en Asie. Elle s'est aussi accompagnée d'un certain nombre de transformations réglementaires, techniques, donc l'augmentation de la taille des porte-conteneurs, la multiplication de ce genre de moyens de transport. Finalement, ce qui compte, c'est de moins en moins de produire, mais c'est de plus en plus de faire circuler, et qu'en fait, la mise en circulation et la production sont souvent indissociables. Par exemple, fabriquer des médicaments, pour revenir sur ce domaine que je connais bien, en fait, c'est très rarement concentrer les fonctions de production. C'est souvent acheter des machines, acheter des principes actifs, acheter des excipients qui viennent tous de différents pays. Et en fait, quand on reconstitue cette chaîne, sans cesse, on est confronté à ces mises en circulation.
Lundi 23 juin 1986. Mais Jean, c'est le sens de l'histoire, faut s'ouvrir au monde. Regardez vos filles, c'est en bougeant qu'elles ont trouvé du boulot. Mais votre fils qui est resté là, il est amoureux d'une Allemande. Bah, dites-vous bien que la mondialisation, c'est ce qui nous rend meilleurs. Pardon de vous dire ça, Jean, mais faut bouger dans la vie, faut bouger. De toute façon, c'est jamais bon de rester dans son coin. Vous voyez mon chien là, le roux ? Bah, il a un avantage sur les trois autres. Lequel ? Il est sourd, au moins il n'entend pas vos conneries. Bougez, bougez, mais bon Dieu, quel sens ça a de bouger ? Maintenant tout le monde se met à bouger. Mais disons que ça ouvre l'esprit. Ce qui compte, c'est pas de bouger, c'est d'être là. Mais sans doute, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je vais vous dire, ce décor, eh bien j'en connais tout. Tout. Cette campagne, j'y vis depuis toujours. Ces arbres là-bas, je les connais tous. Rien qu'à les voir, je sens celui qui flanche, celui qui se fait étouffer par le lierre, celui qui a soif, celui qui repousse les autres. Alors si je me mettais à bouger, moi aussi, tous ces arbres, ces bêtes, ces prés, ce jardin et ces chiens, ils feraient quoi sans moi, hein ? Ils feraient quoi ? Mais Jean, je voulais juste vous dire que, c'est le mouvement de l'histoire, quoi. Ce monde-là, c'est moi qui le porte. Seul, il ne s'en sortirait pas. Mais d'accord, mais ça interdit pas aux autres de voyager. Mais bon Dieu, mais aujourd'hui, faut que tout voyage, les céréales, les vaches, les téléviseurs, les micro-ondes qui viennent de Hong Kong, les Walkman qui sont made in Taiwan. Et pendant ce temps-là, on vend notre lait aux Chinois, tout ça se croise dans les airs, sur les bateaux, mais c'est n'importe quoi. Vous savez ce qu'elle va donner, votre manie de la bougeotte, hein ? Vous savez ce qu'elle va m'amener à moi, comme à mes arbres, à mes poules, à mes chiens ? Non, je sais pas. Une autoroute.
Massive va multiplier par 5 nos besoins en métaux, en cuivre en particulier, dans les 30 prochaines années. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les 30 prochaines années, il va falloir extraire de la croûte ce qu'on a déjà extrait depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Et ce, malgré un taux de recyclage qui est très bon pour le cuivre. Mais voilà, malgré ces taux de recyclage, il faut extraire énormément de cuivre. Or, extraire des métaux, ça veut dire faire des trous, broyer de la roche, des très grandes quantités de roche, utiliser des produits chimiques pour extraire les minerais, etc., etc. La mine durable, la mine verte, la mine responsable, la mine ce que vous voulez, ça n'existe pas. Sans oublier que le secteur minier, c'est 10% de l'énergie mondiale, que le secteur minier est le premier générateur de colons filés dans le monde, etc. Conflit sur l'usage des sols, déforestation, etc., etc., etc. Autrement dit, la face cachée de l'électrification, elle est là.
Je voudrais bien expliquer ici, pour que ce soit clair pour tout le monde, ce projet, s'il se fait, on aura soit à perdre 17 euros pour aller à Toulouse faire aller-retour, soit à perdre 17 minutes pour emprunter la route gratuite, parce que d'après nos calculs, clairement, avec tous les ronds-points qu'ils vont rajouter sur la route d'aujourd'hui et la suppression des deux déviations, on va perdre à peu près au moins un quart d'heure pour faire Castres-Toulouse. Et c'est ceux qui veulent, parce que comme ça, on sera obligé de prendre leur autoroute. Donc il faut bien voir que ce projet-là, il n'a que des inconvénients, et pour tout le monde, y compris pour les gens de Castres et de Mazamé.
Je ne sais pas si j'ai le temps de parler du numérique.
Oui, parce que ça aussi.
Ah, mais c'est magique, ça. Mais non, mais c'est formidable, quand même. J'ai pas avec moi, là. Le petit truc que vous avez dans votre poche, là, tout ça. Qui pèse 150 grammes en moyenne. Vous savez combien il faut de kilos de matière pour faire une petite puce électronique de 2 grammes? On va immobiliser 40 kilos de matière, métaux et plastique. Et je ne parle pas évidemment des quantités énormes d'eau. Vous savez que si on a des pénuries de puces électroniques en ce moment, c'est parce que Taïwan, le principal producteur de puces électroniques, a des pénuries d'eau. Parce que, à cause du changement climatique, ils n'ont pas eu leurs réserves d'eau qui sont remplies comme ils avaient prévu. Donc le numérique, ah oui, puis le numérique, les petites ondes qui passent, c'est quand même formidable. Le numérique, ça consomme rien, quoi. C'est tout, ça passe tout. Vous savez que les data, là, tout ce qu'on partage, tout ce qu'on visionne sur Internet, ça passe par des câbles sous-marins, des millions de kilomètres de câbles sous-marins. Encore des métaux. Et les data centers, qu'est-ce qui les refroidit ? De l'énergie. 15% de l'électricité mondiale pour refroidir ces data centers, et c'est en croissance vertigineuse.
Une autoroute. Édouard ne comprenait pas. Là, oui, juste au-dessus de la vallée. Le projet est dans les cartons. Et encore, il parle d'une autoroute, mais c'est d'une camion-route qu'on devrait dire. 10 000 véhicules par jour, dont 6 000 camions. Parce que les autoroutes, faut pas croire qu'ils les font pour les voitures. Hein. Non, c'est pour les camions qu'ils les construisent. Alors voilà où elles vous mènent, vos envies de budget, à vous, à foutre des camions et des avions partout. Mais enfin, Jean, ils feront jamais une autoroute ici. C'est dans le schéma directeur, avec un viaduc là-bas à gauche, au-dessus de la vallée de la Rose, ou peut-être même juste ici, là où on est assis. Non, je peux pas y croire. Depuis que Chirac est Premier ministre, il a ressorti le dossier, à croire que c'est urgent de relier la Corrèze à l'Espagne en bas et à l'Allemagne en haut. Ce qu'ils veulent faire de la France, c'est un nœud routier, un rond-point géant, entre l'Angleterre, les Pays-Bas et l'Afrique, avec des beaux camions remplis de jambon en plastique qui passeront là. Édouard ne savait plus quoi dire. Du regard, il balaya tout le décor sur le point de plonger dans l'obscurité. Il ne s'était jamais figuré cela en roulant sur une autoroute. Il n'avait jamais pensé aux milliers de petits désastres que ça avait dû occasionner. Chaque kilomètre d'autoroute recouvrait 1000 drames. Des fermes coupées en deux, des exploitants expulsés, des forêts déchirées en deux et des maisons sacrifiées, des chemins coupés nets et des rivières détournées, des nappes phréatiques sucées. Alors il en resta là. Mais surtout, il ravala la réflexion qu'il s'était faite tout le long de l'interminable National 20. Et ensuite en roulant sur ces petites routes. Parce que c'était tout de même un sacré parcours de venir depuis Paris jusqu'ici. Et une autoroute, ça ne ferait pas de mal à la région. Voilà ce qu'il s'était dit. «
Finalement, quand on parle de tous ces miracles technologiques là, qu'on en aimerait bien y croire, tout ça, ben on a oublié un petit quelque chose. On a oublié que finalement c'est pas la voiture, la mobilité, le problème, c'est son usage. C'est qu'est-ce qu'on en fait. Remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, on sait, nous les géologues, que ça passe pas. Ça passe pas. C'est mathématique. On n'a pas encore trouvé l'astéroïde qui allait nous fournir assez de métaux pour. Voilà, ça passe pas. Et on va être obligé de réfléchir en termes d'usage, de qu'est-ce qu'on fait avec notre voiture. Est-ce qu'on la partage? Est-ce qu'on la loue plutôt que d'avoir notre voiture à nous, rien qu'à nous? Donc c'est vraiment, il faut réfléchir. C'est un changement de. Enfin, vous avez compris quoi. C'est le logiciel qu'il faut changer. Et à partir de là, toutes les infrastructures, tout ça, on en parlait tout à l'heure. Cette autoroute, finalement, ben, on rajoute une autoroute, ben, on rajoute des voitures. Et puis toujours plus grosses, et puis toujours tout seul dans sa voiture. On ne change pas de modèle, on continue toujours dans cette même trajectoire.
Moi, je crois que c'est un héritage du gros lobbying qui a eu lieu à la fin des années 80 par Reagan et Thatcher, qui vendaient la modernité, le fait d'être quelqu'un de dynamique, en mettant en avant l'intérêt personnel. Le toujours plus vite, toujours plus d'argent. Et la personne qui réussit sa vie, c'est celle qui va plus vite, qui est plus forte, qui domine, voilà, qui est plus riche. C'est ça, en fait, finalement. Et ça a gangréné tous les esprits, ce message. Et je pense qu'on est peut-être, pour certains, en train d'en sortir, mais ça a vraiment fait beaucoup d'effets, beaucoup imprégné la société.
Ce serait bien de changer l'imaginaire, c'est le moment en fait, on est vraiment au pied du mur, hein, au niveau climatique, au niveau économique, il y a plein de choses qui le mériteraient. Et bien malgré tout, ils continuent à se dénier, de refuser voir la réalité des choses en fait. Ça vient de loin, cette dynamique là, de toujours plus, de sans tenir compte en fait de destruction qu'on fait derrière, humain et puis environnemental. Hein, c'est dramatique en fait, moi je trouve en fait.
Je pense qu'abattre les arbres et raser les forêts à notre stade, c'est vraiment une aberration. Je pense également que supprimer l'habitat de certains animaux est aussi détestable que devoir supprimer certains éléments de la nature. L'avenir de tous les enfants est entre vos mains, ne le gâchez pas. Qui rêverait de vivre dans un monde de béton et de plastique? Nous devrons alors réparer vos erreurs pour retrouver, si c'est possible, un monde vivable. Le plastique dans les océans, sur les plages, dans les villes, la sécheresse et le réchauffement climatique, cela ne vous suffit pas. Vous avez besoin d'une autoroute de plus. Songez à ce dont nous hériterons, nous réparerons vos erreurs, nous hériterons de toutes ces autoroutes inutiles.
Il y a une façon de concevoir le déplacement qui va être celle du régime logistique d'une certaine façon, qui est on planifie le déplacement et en fait le déplacement, disons l'espace dans lequel on déploie son déplacement, et en fait penser uniquement comme une surface de transport, et rien ne se passe, en fait tout ce qui se passe intellectuellement se passe en amont de cette activité de transport, tout est planifié, tout est cadré au maximum. Et au contraire, qu'est-ce qui se passe dans le fait de se déplacer ? Se déplacer, c'est penser, se déplacer, c'est construire un univers, c'est construire un rapport à l'environnement. Et une réflexion par rapport à cette manière-là, quoi, dont on peut se réapproprier ce que c'est que nos trajectoires et comment on se déplace pour penser justement plus complètement, pour pousser plus avant cette pensée de la contre-logistique ou de l'alter-logistique.
Mais c'est vrai qu'on assiste actuellement quand même à peut-être un changement, une prise de conscience, mais ça va être long en fait. Et le problème, c'est qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues à chaque initiative, même au niveau local. Et ça, c'est démoralisant, il faut vraiment être motivé. Je parle pour moi, mais c'est fatigant, quoi. C'est fatigant. Moi, je vois tous les militants là, qui, autour de nous là, qui se battent avec nous, ils prennent sur leur temps, tu vois. C'est éreintant, quoi. C'est, au bout d'un moment, il y en a qui lâchent, hein, c'est normal. Donc on est... Après, ce qu'il y a de... Moi, je trouve notre collectif, et moi j'adore, parce que vraiment, il y a une vie, une dynamique, c'est ça qui nous fait vivre, en fait. Alors, sinon, ça porte vachement. Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté leur boulot, hein, qui luttent là-dedans, hein, qui ont vraiment émis une parenthèse là-dedans pour plusieurs mois, pour ne se consacrer qu'à ça. Parce que ça les porte, c'est leur, pour eux, c'est primordial, c'est même vital devant leur emploi et même leur vie de famille.
En octobre 2014, nous étions réunis à Silette pour défendre des terres, une zone humide, des arbres contre les ravages du béton et de l'accaparement de l'eau, contre un système qui broie le vivant. C'était le jour de la mort de Rémi Fraisse. C'est ce même système, fait de collusion entre les intérêts privés et la puissance publique, que nous combattons aujourd'hui. Mais depuis 9 ans, mesurons le chemin que nous avons parcouru. Nous avons compris que cette lutte ici, elle est un emblème, que c'est à partir des territoires, de luttes ancrées dans des milieux de vie, d'alliances nouvelles, que nous pouvons parer aux menaces, tout en construisant les conditions de notre autonomie matérielle et politique. S'opposer à cette autoroute ici, c'est s'accorder avec les soulèvements ailleurs. Ce projet d'autoroute heurte à la fois la raison, le sensible, le sentiment de justice. Oui, la terre aussi se soulève à force d'écrasement. Et nous sommes le relais de ces soulèvements. Nous sommes la terre qui se défend. Nous sommes des zones à défendre, à cultiver, à soigner, réparer. C'est un devoir.
On est là, c'est qu'il y a encore de l'espoir, et ce genre de lutte qu'on mène, c'est un peu les derniers espoirs. Donc là, on voit qu'il y a de l'espoir, parce que là on est des centaines aujourd'hui, demain il faudra être des milliers, parce que ce projet d'autoroute, s'il passe, on peut se demander si s'il y aura encore de l'espoir derrière, si en 2023 on fait ce genre de projet d'autoroute. Mais l'espoir, il est là. Il n'est pas question que ce projet d'autoroute se réalise. Ça n'est pas une option.
Non.
Avant l'autoroute.
Les entretiens et prises de parole que vous avez entendus ont été réalisés entre les mois d'octobre 2022 et avril 2023 lors des rassemblements et manifestations organisés par le collectif La Voix est libre. On a pu y entendre Gilbert Hébrard, ancien maire de Vendine, Geneviève Azam, économiste et membre d'Attaque France, Marik van Lichterveld, géologue de l'Atécopole, et d'autres personnes anonymes qui clament leur opposition à cette autoroute. Merci à Gilles et Marie-Odile pour leur contribution, leur temps et leurs éclaircissements. Et comme son piqué sur les internets mondiaux, on a pu entendre le youtubeur Douzery qui nous fait une présentation de Pierre Fabre en mode mitraillette, Mathieu Quette, sociologue qui vient parler du système logistique au site lundi matin, et Maestro qui nous raconte le développement autoroutier en France au XXe siècle. Enfin, pour les lectures, on a entendu des passages de La vie à la ferme des Bertranges dans le Lot qui sont issus du livre Nature humaine de Serge Joncourt. Dans ce texte, le projet d'autoroute contre lequel s'insurge Jean n'est pas celui de l'A69 dans le Tarn, mais celui de l'A20 dans le Lot, il y a déjà 40 ans. Aujourd'hui, l'A20 enjambe bien la vallée de la Rose, pas très loin de Cahors, et des jambons sous vide y circulent dans des camions frigorifiques. Les 22 et 23 avril 2023, près de 8000 personnes se sont rassemblées près de Castres, dans le Tarn, à l'appel du collectif La Voix est libre, de la Confédération paysanne, des Soulèvements de la Terre et d'Extinction Rébellion, pour afficher leur opposition à la construction de l'autoroute A69 et dire leur détermination à empêcher ce projet. Rien n'est gagné, mais la lutte continue. Ce documentaire a été tricoté par Julien Carretero et mis en musique par Marion Poissel. Vivas reviendra dans un prochain épisode avec des nouvelles voix vivantes et tenaces contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse, dans le Tarn.
Si on dit révolution, il faudra dire douceur. C'est-à-dire commencer par accepter d'être du côté d'une stratégie non productive, non efficace, non spectaculaire, et que seule la ferveur permet d'embraser.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.